Nathalie Arthaud, vous êtes une personnalité politique française bien connue, porte-parole de Lutte ouvrière, parti d'extrême gauche depuis 2008, et vous avez été également, avant 2014, conseillère municipale chargée de la jeunesse à Vaux-en-Velin.
Évidemment, nous avons tous été bouleversés. C'est vrai que c'est des actes barbares. Enfin, on ne peut ressentir que de l'incompréhension et de la révolte, en fait, hein, face à ce genre d'assassinat aveugle. Et donc, il y a une grande émotion collective. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une récupération politique de cet élan de solidarité et de ce que finalement nous avons tous partagé. Et ça, nous la dénonçons, cette récupération politique, parce que finalement, quand François Hollande nous explique que pour rendre hommage aux victimes, il faut tous mettre notre drapeau, un drapeau tricolore à nos fenêtres, hein, lorsqu'il veut en fait que nous nous alignions derrière sa politique, derrière sa politique guerrière, derrière sa politique sécuritaire, et nous ne marchons pas là-dedans. Oui, moi, je pense que Daesh est... les milices djihadistes qui s'emparent comme ça d'une religion s'en servent comme d'un instrument de pouvoir. La réalité, c'est qu'ils cherchent le pouvoir sur une région. D'ailleurs, comment se conduisent-ils vis-à-vis des populations syriennes en Irak, mais comme des dictateurs, comme des dictatures les plus monstrueuses qui soient. Ils rackettent, ils réduisent les femmes en esclavage, ils pillent la région. Donc, et les victimes sont d'abord et avant tout musulmanes. Ce n'est absolument pas une guerre de religion, ce n'est pas une guerre, un choc de civilisation comme on a pu l'entendre. Non, c'est effectivement une lutte pour le pouvoir. Et je crois que là où il y a une responsabilité, je ne dis pas de la société française du tout, mais de l'État français qui toujours a pour préoccupation de défendre l'influence des intérêts français dans cette région riche en pétrole, hein, de défendre les intérêts des pétroliers, de défendre les intérêts des grands groupes capitalistes, de défendre les intérêts des marchands d'armes aussi, Dassault et nos grands marchands d'armes. Je rappelle quand même que la France est le deuxième exportateur mondial d'armes. Eh bien, eux, ils ont intérêt effectivement à toutes ces manœuvres impérialistes qui ont fait naître ces groupes djihadistes. Ils ont intérêt à s'appuyer sur des dictatures moyenâgeuses comme le Qatar, l'Arabie saoudite, qui font le lit aussi de ces monstres. Donc oui, il y a une responsabilité de l'État français, des puissances impérialistes de la France, parce que c'est leur manœuvre. Et puis, c'est aussi la désolation qu'ils sèment dans toutes ces régions qui font naître ces groupes-là.
Vous diriez ça, par exemple, Nathalie Arthaud, vous êtes pour la prolongation des frappes en Syrie qui a été...
Sûrement pas. Je viens d'expliquer justement que cette guerre contre le terrorisme qui est menée depuis 14 ans n'a fait que les multiplier, les foyers terroristes. Écoutez, on peut en faire le bilan quand même, y compris quand j'entends François Hollande très fier d'avoir bombardé des centres d'entraînement de Daesh. On nous le présente comme cela, en nous parlant de centres de commandement, mais ça tombe sur des villes qui sont peuplées. Raqqa, c'est 200 000 habitants. Comment peut-on croire que ces bombes ne font pas des dizaines, des centaines, des milliers de victimes qui sont innocentes? Qui sont innocentes parce
sont
que vous
ciblées,
savez...
quand même, les opérations
mais
sont ciblées.
Mais c'est toujours ciblé, d'ailleurs. Vous savez, même la bombe sur l'hôpital en Afghanistan, des Américains, ciblée. Elle était très ciblée, paraît-il. Vous voyez, et c'était sur un hôpital quand même. Alors non, la réalité, c'est que dans ces villes, justement, il y a des femmes et des hommes les plus pauvres. Ceux qui n'ont pas pu fuir, justement, ces monstres de Daesh, qui sont piégés là-dedans. Alors, vous comprenez, on est dans un engrenage qui est sanglant. La réalité, c'est ça. Et puis, vous voyez, moi, j'entends dire... Donc, moi, je suis opposée à toutes ces interventions impérialistes. Et je dis, c'est une mauvaise solution. C'est un bourbier. Et quand ils nous expliquent que, cette fois-ci, ils vont s'y prendre beaucoup mieux. Ils vont faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait en Irak, parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils ont fait en Irak ou en Libye. Ils savent que tout ça, ça a fait le lit. Hein. Ils nous disent, on va s'y prendre beaucoup mieux. On va faire une coalition, grande coalition internationale. On va trouver une solution politique. Regardez, ils se tirent les uns sur les autres. L'avion russe qui a été descendu par la Turquie. Et puis, est-ce que franchement, on peut croire qu'en s'appuyant sur Bachar al-Assad, on peut combattre des monstres? En s'appuyant sur celui qui a...
Donc, non, il y a beaucoup de divergences là-dessus, comme vous savez.
Non, c'est pire qu'une impasse. C'est pire qu'une impasse. Ça alimentera le terrorisme, donc je le dénonce. Et je suis tout à fait d'accord pour dénoncer aussi les mesures sécuritaires. Et en particulier le fait de pointer du doigt, justement, des boucs émissaires, les étrangers, les musulmans, etc. Et là, quand même, je pense que le gouvernement, il fait le jeu, justement, du Front National. Parce que c'est pas lutter contre les amalgames, ça. Ça, c'est aller dans le sens du rejet et du repli sur soi.
Alors, pour la sécurité, Est-ce que, Nathalie Arthaud, vous parleriez de dérive sécuritaire du président de la République, de dérive sécuritaire de l'ensemble des députés, de l'ensemble...
Je parlerai surtout...
Parce que, entre les grands partis, franchement, là, nous sommes des petites listes, mais les grands partis sont unanimes de ce point de vue-là.
Je parlerai surtout de gesticulation. Effectivement, c'est de la communication, parce qu'ils savent très bien que l'état d'urgence, ça peut être pertinent en quelques jours, mais qu'en quelques jours, tous ceux qui veulent se faire exploser au milieu d'une foule, ils ont eu le temps de se cacher, mais de changer d'identité, de cacher les preuves. Voilà, deux jours après, mais trois mois, ça n'a plus de sens, y compris M. Trédivic l'expliquait très bien. Et donc, je pense que c'est de la gesticulation, et encore une fois, que c'est inefficace pour ce qu'ils visent, c'est-à-dire nous protéger du terrorisme, mais que surtout, ça aggrave tout un climat qui est détestable. Ce climat, justement, d'inciter au repli sur soi, d'inciter au rejet de l'autre, l'amalgame. C'est ça le véritable problème, c'est que finalement, quand on voit que Hollande, alors que Hollande et Valls, 15 jours avant les attentats, nous expliquaient que le Front National, c'était le danger numéro un, que la France allait se fracasser sur le Front National, qu'il fallait tout faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé Marine Le Pen à l'Élysée pour prendre des conseils auprès d'elle. Et pire, Hollande, finalement, a puisé dans le programme du Front National, a puisé dans le programme du Front National pour mettre en place un certain nombre de mesures. Donc la réalité, c'est qu'ils croient... manipuler, si vous voulez, cette émotion collective pour que ça profite au Parti socialiste, ça va profiter au Front National et à tous ceux qui sont racistes et qui veulent profiter des peurs qui existent et qui sont réelles pour justement pour leur camp. Voilà. Donc, moi, je le dénonce. Et en plus de ça, en plus de tout ça, écoutez, les premières victimes de l'état d'urgence, ça a été les manifestations. Ça a été, j'ai lu, les restaurants du cœur qui ont été interdits de distribuer pendant quelques jours.
Mais écoutez, vous ne pouvez pas empêcher que les gens, bien sûr,
je pense quand même que la première des sécurités, c'est quand même de manger déjà. Alors déjà ça, mais surtout regardez la manif, la manifestation.
C'est un désir d'éviter quand même l'attentat, y compris dans les restaurants du cœur. Vous pouvez pas.
La manifestation contre les migrants a été interdite. Dimanche 22. Eh bien, moi, je trouve que c'est scandaleux.
Pour les migrants.
La manif la manif de solidarité aux migrants a été interdite. Et moi, je trouve ça scandaleux, y compris les déclarations de Manuel Valls, de dire qu'il faut maintenant arrêter l'accueil des migrants, parce que les migrants sont les premières victimes de ce que nous dénonçons, qui nous a horrifiés, dont nous avons été nous-mêmes victimes. C'est une raison de plus pour dire, écoutez, on est ensemble victimes de cette barbarie. Il faut évidemment qu'on soit solidaire et qu'on donne l'asile à ces millions de familles.
Parce que la jeunesse, il y a une politique de la jeunesse, il y a une intégration de la jeunesse. Est-ce que vous y pensez dans le cadre régional et qu'est-ce que vous proposez?
Non, moi, je constate qu'il y a beaucoup de discours sur la jeunesse. Je constate que le gouvernement, y compris Hollande, s'était engagé à en faire une de ses priorités, de renforcer l'école, l'éducation. Et la réalité, c'est que l'éducation reste défaillante. C'est un échec criant, voilà. Alors, maintenant, moi, si vous voulez, je combats, y compris toutes ces fausses promesses, qui sont multipliés sur le terrain de l'éducation. En réalité, il faudrait des moyens, mais l'argent, qu'est-ce que vous voulez, quand on le donne à fond perdu au grand patronat, quand on le distribue en CICE, eh bien, il n'y en a plus pour les services publics. Ça, c'est un premier constat. Mais moi, par rapport à la jeunesse, si j'ai envie aussi de m'adresser aux jeunes aujourd'hui, à l'échelle de la région, mais à l'échelle du pays, parce qu'on sent bien, justement, pourquoi il y a ce décalage aujourd'hui dans cette campagne, c'est qu'on est tous préoccupés de où va-t-on, où va notre société? Où va le monde? Et ces jeunes aussi se posent la question, je peux vous le dire. Moi, je suis enseignante en lycée à Aubervilliers. Les jeunes se sont posés toutes ces questions-là. Moi, j'ai envie de leur dire qu'on ne peut pas imaginer un îlot protégé, un îlot de prospérité dans un océan de guerre, de misère, de dévastation, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des continents entiers qui sont, où les gens ne peuvent pas survivre, où effectivement la moindre petite frappe qui récupère une Kalachnikov peut concentrer autour de lui et faire vivre autour de lui toute une bande. C'est ça la réalité. Donc moi j'appelle cette jeunesse à se poser effectivement des questions sur la société, sur cette société capitaliste où finalement il n'y a que l'argent qui dirige le monde. Donc, c'est toutes ces questions-là que nous voulons aussi poser aux élections régionales.
Partage, Nathalie Arthaud. Oui, il y a un désir des jeunes de s'intégrer, de travailler, parce que je crois que les tirs au plan... voilà. Donc, de s'intégrer dans des entreprises.
évidemment. Donc,
c'est un peu difficile quand on... quand on condamne d'une façon générale la marche des entreprises, le CICE, etc., de dire après, ah ben, il faut que les jeunes entrent dans des entreprises. Vous n'avez pas de temps en temps une sorte de paradoxe là-dedans ?
Mais écoutez, pas du tout. Bien sûr que les jeunes ont envie aussi de s'intégrer, d'avoir une vie professionnelle. Ils ont plein de compétences, plein d'envie, ils sont dynamiques. Enfin bon, bien sûr, mais... Vous remarquerez que c'est le patronat qui ne veut pas des jeunes. C'est ça le vrai problème. On peut multiplier les initiatives de formation, y compris les jeunes les utilisent, tous ces dispositifs-là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'embauche. La réalité, c'est quand un jeune cherche un stage, un pauvre stage, mais c'est là, il met des semaines et des semaines, donc et c'est des portes qu'on leur ferme au nez. C'est ça, la permanence. Le problème, c'est qu'il y a des licenciements dans toutes ces grandes entreprises, dans tous ces grands groupes.
Les entreprises marchent bien pour embaucher.
Mais écoutez, elles marchent très bien, les entreprises. Il faut arrêter avec ça, justement. Et quand vous me dites les entreprises, non. Dans les entreprises, je suis bien consciente qu'il y a les dirigeants qui prospèrent. Ils ont leur taux de marge qui est au rendez-vous. Ils ont fait leur profit, il n'y a pas de problème. Et il y a les travailleurs. Donc pour moi, ce n'est pas l'entreprise, il y a ces deux camps. Et ce qu'on constate, c'est que le patronat, pour augmenter ses profits aujourd'hui, ne cesse de supprimer des emplois. À Air France, moi, les jeunes me disent, moi, je voudrais travailler sur la zone aéroportuaire. Mais ils savent qu'il y a des licenciements dans toutes ces entreprises. Leurs parents eux-mêmes en sont victimes. Donc le problème, c'est qu'on commence aussi à interdire ces licenciements, qu'on combatte véritablement ce chômage de masse. Parce que, oui, les quartiers populaires, les classes sont les premières frappées, et les jeunes des quartiers populaires sont les premières victimes de cela. Donc une politique de lutte contre le chômage, nous, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est ça, c'est l'interdiction des licenciements et qu'on prenne sur les profits pour les créer, ces emplois. Et pour augmenter les salaires aussi, du même coup, parce que justement, ils seront mieux utilisés, cet argent, aux salaires, aux retraites, qu'à la spéculation. Alors...